Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut.
D'ATH.
Hello.
De Pixel.
Salut.
Et de Ben.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'un mode pour XCOM 2. On enchaînera ensuite sur la sortie pour le moins mitigée de Dishonored 2 sur PC. Et enfin, nous terminerons par la news de la semaine, Mass Effect Andromeda. Sans oublier le craquage du moment, Pixel a acheté la PS4 Pro et vous en parlera. Allez, on va commencer, mon cher Ben, avec donc un mode pour XCOM 2. Quel est ce mode ?
Ben, c'est les prémices d'un mode coop. Donc une fois de plus, on peut dire merci à la communauté de faire des choses comme ça. C'est une team qui s'appelle Dragon Punk et qui donc a sorti une bêta d'un mode coop qui permet pour l'instant pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver qu'à deux sur des parties définies. En fait, on peut pas faire une campagne complète. C'est il y a un joueur qui va hoster et il y a l'autre qui va pouvoir rejoindre une partie.
D'accord.
Le joueur qui rejoint, il va pas avoir l'XP ni les objets, etc., lootés. Et là, en fait, ce qu'ils attendent, c'est que Firaxis leur donne le droit de l'intégrer carrément, qu'après ça, ils puissent continuer à développer dessus, à bosser. Ils espèrent, en tout cas, arriver à terme à faire un mode coop de 12 joueurs. Donc, ce qui serait un sacré bordel, mais qui pourrait être vraiment sympa.
Ouais, non, parce que si tu joues avec un gars comme Mordren, je veux dire, voilà quoi. Sachant que dans XCOM, il y a du Friendly Flyer, hein, je rappelle. Le mec, il serait bien capable de te balancer une grenade. Ah, oups, ah, vous étiez là, mince.
Ouais, sachant que j'ai appris que XCOM 2 était aussi assez coutumier du fait de te faire louper des tirs qui sont a priori donnés.
Inloupables.
Je pense que je serais bien capable de louper un tir à 95%, ouais.
Je pense, ouais. Non, mais c'est bon, une fois de plus, le mode est accessible sur le Steam Workshop. Donc ceux qui veulent le tester, ils peuvent commencer, sachant que voilà, pour l'instant, c'est assez limité. Mais voilà, c'est une bonne initiative et on espère que ça puisse être intégré. Alors une fois de plus, on pourrait dire que ils auraient pu le faire tout de suite, le studio. Mais bon, ça c'est un autre problème.
Bah, en tout cas, chapeau pour le travail parce que
C'est un gros boulot, ouais.
C'est compliqué. Voilà. Donc que des amateurs te sortent ça comme ça. Bravo, chapeau. Bah.
D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. On comprend, tu sais, par exemple, un jeu comme en Skyrim, que les gens ajoutent des modes, mais c'est des jeux où tu joues essentiellement en solo. Mettre un mode coop, je sais pas si ça va déranger ou pas l'éditeur.
XCOM est assez ouvert au mode. Hein. Mais ce qu'on espère, en fait, c'est vraiment que Firaxis leur file un coup de main. Ça va être très compliqué à mettre en place, quoi.
Ça risque d'avoir du mal à évoluer, en tout cas, de l'état actuel. Ouais. Alors, à noter que le mode est disponible depuis une dizaine de jours et qu'il n'a pas été retiré. Donc, comme le disait Tyran, Firaxis, a priori, c'est pas un studio à emmerder les gens qui font ça. Surtout un truc aussi intéressant. Donc,
En fait, c'est pas de Firaxis que j'ai peur, mais c'est plus de la boîte qui édite.
Ils ont un historique derrière qui montre qu'ils sont assez open sur les modes.
Donc, okay, c'est
normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, je pense. Ça n'est pas Konami, quoi. Konami, au passage, je vous rappelle qu'il y avait interdit un remake de MGS1 et ils ont sorti une version de la map qu'ils avaient faite pour MGS1 en mode de galerie, tu sais, où il y a que des fan art dessus et tout. Voilà, pour pas que tout soit jeté à la poubelle. C'est quand même triste, tu vois, quand t'as des mecs qui ont bossé des années sur un truc et qu'ils en soient réduits à faire une galerie avec ce qu'ils ont fait parce qu'ils peuvent pas faire un jeu avec.
Enfin, la licence, elle leur appartient pas. Au moins, ils auraient demandé dès le départ à Konami, ils auraient dit non, le mec, il serait pas fait chier à faire ça. C'est ça que des fois, je comprends pas. Tu sais très bien, par exemple, si tu vas faire un jeu sur Mario, que Nintendo va te tomber dessus quoi qu'il arrive. Donc, ne fais pas. Le travail que t'as fait, il va être gâché.
Ouais. J'ai toujours trouvé ça tellement débile que bon.
Bref. Ouais, moi je trouve ça débile aussi, hein. Mais
sinon, t'as raison. Hein. Je veux dire, si vous avez pas l'accord de l'éditeur, vous faites pas chier. Sauf si vous voulez faire un truc qui traînera après sur les réseaux BitTorrent. Mais à ce moment-là, le truc, on en parle que le jour que c'est terminé, quoi. On va enchaîner sur un truc moins cool, messieurs. On va parler de mon soulagement de la semaine. Parce que cette semaine, si vous voulez, j'avais un dilemme. J'avais deux jeux que j'attendais et qui sortaient aux alentours de mon anniversaire. Heureusement pour moi, j'ai fait le bon choix, à savoir que j'ai choisi de faire Tyranny. Et pour le moment, vu le pied que je prends dessus, je pense que c'était vraiment un bon choix. Et j'ai d'autant plus fait le bon choix que la sortie de Dishonored 2, c'est un peu une catastrophe sur PC apparemment. Visiblement, c'est comparable à Deus Ex Mankind Divided, mais en pire. C'est-à-dire que, en gros, le jeu a été optimisé à la piste sur PC, quoi. On se retrouve dans des situations, des mecs qui ont une GTX 1070, qui est quand même une carte graphique qui coûte aux alentours de 400 boules, je crois. Non pas un jeu qui est fluide out of the box, quoi, tu vois. Parce que, si tu veux, il y a des gens qui te sortent l'argument « Oui, il faut update tes drivers, etc. » Écoute, à moins que le gars il ait des soucis sur les autres jeux qu'il a, je suis désolé, ça devrait tourner à 60 FPS sans update de driver. C'est quand même une carte graphique qui vient de sortir. Ça devrait marcher nickel chrome dessus, quoi. Je suis désolé. La preuve, d'ailleurs, récemment, avec le nouveau Battlefield, qui, lui, pour le coup, tourne comme une balle dessus. La preuve avec Doom, qui est sorti, qui tournait comme une balle sur les cartes graphiques récentes. Bref, ça n'est pas une excuse, voilà. Je suis désolé, sur les dernières cartes graphiques qui viennent de sortir, à moins qu'il y ait des soucis d'une manière générale sur les drivers, ça devrait tourner nickel, bordel, quoi. Donc, le jeu, il tourne à la pisse. En plus, il y a des soucis avec la souris, c'est-à-dire qu'ils ont complètement foiré leur réglage. Du coup, c'est extrêmement désagréable à utiliser à la souris, en fait. Tu sais, pour tourner la caméra, etc., c'est extrêmement lent. Donc, il faut aller refaire les réglages dans les paramètres. Bref, les joueurs PC, ils sont pas contents. Tant et si bien que le jeu, il se tape des sales notes sur Steam. Je crois c'est une moyenne de 54% actuellement sur Steam. Et moi, je suis désolé, ils ont raison. Voilà. ATH.
Sur console aussi, on a des chutes de framerate en ce qui concerne la version PS4, du moins. Alors que t'as quand même un patch le jour de la sortie du jeu qui fait quand même 9 gigaoctets, et les mecs, ils arrivent quand même à te foirer un truc comme ça. Aujourd'hui, avec tout ce qui est console connectée, les jeux sur PC, bah les éditeurs, ils se reposent beaucoup plus sur leur laurier qu'auparavant. Ils font des jeux finis à la pisse. Le jour de la sortie, t'es plus pénalisé qu'autre chose. Déjà, il y a les patchs correctifs qui vont sortir, et souvent aussi pour les gros jeux, du moins, t'as souvent une édition GOTY qui sort dans l'année, ou l'année d'après, et qui te donne tous les DLC avec les extensions, etc. Ce qui fait que, bah, du coup, en fait, maintenant, aujourd'hui, d'acheter un jeu Day One, c'est prendre un risque, quoi. Et c'est dommage. En fait, c'est dommage. Alors que normalement, tu devrais être la personne la plus chouchoutée, parce que c'est toi qui fais le gros des ventes du jeu. Limite, les éditeurs, ils devraient, je sais pas, pour ceux qui achètent le jeu Day One, tu vois, ils devraient t'offrir des DLC ou ce genre de conneries, quoi.
Et ce d'autant plus, je rappelle une chose, c'est que, de plus en plus d'éditeurs, dont Bethesda, ont une politique assez nauséabonde vis-à-vis des reviews. Oui, non, parce que, en vrai, pour vous dire la vérité, cette news, c'est un prétexte. Je rappelle que Bethesda, récemment, a annoncé sa nouvelle politique, à savoir que, désormais, les jeux ne seront plus envoyés en avance à la presse. Alors, on a certes entendu que, oui, ils étaient pas les seuls à le faire, oui, au moins, eux, ils étaient honnêtes, entre guillemets, ils le disaient ouvertement, là où d'autres éditeurs ne le disent pas, mais le font quand même. Tous les gros éditeurs font ça, quasiment. Hein. Surtout qu'en plus, à côté de ça, il y a un différentiel qui est fait entre la presse d'un côté et les ambianceurs, dirons-nous, de l'autre, n'est-ce pas ? Si tu veux faire le kikou sur les jeux Bethesda, bah tu peux. Hein, parce que voilà, tu critiques pas, donc tu fais de la publicité gratuite, donc voilà. Bon, c'est vrai que les éditeurs sont dans leur bon droit, hein, ils ont pas envoyé des copies gratuites à des gens qui vont dire que leur jeu c'est de la merde, tu vois. Très bien, d'accord. Sauf que là, on voit le résultat, c'est-à-dire que en gros, avant la sortie, il n'y a pas eu de retour sur le jeu. On a un jeu qui finit à la pisse, et du coup, ben les joueurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se vengent sur les notes, parce que ben on s'est foutu de leur gueule, quoi. Voilà. Donc moi, tout ce que j'avais à dire, c'est que oui, certes, Bethesda, ils sont plus honnêtes sur leur politique, etc., mais ça n'en reste pas moins des putes. Voilà.
Oui, c'est pas parce que t'assumes que t'es une pute que t'en es pas moins une pute, en fait.
Voilà. ATH.
Ouais, moi, ça me dérange pas, en fait, que, si tu veux, ils envoient pas les jeux à la presse. Enfin, ils envoient les jeux, mais ils envoient genre une journée avant que le jeu sorte dans le commerce. Si tu veux, ça, moi, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent pas envoyer les jeux, ils envoient pas. Mais si un YouTuber a l'occasion de faire un let's play 2 semaines avant la sortie du jeu, là, ça me dérangerait parce que, tu vois, il y a 2 poids 2 mesures. C'est soit t'envoies le jeu à personne, il arrivera pour tout le monde à la même date, soit tu l'envoies à tout le monde et qu'il n'y a pas des priorités parce que j'ai l'impression que, tu vois, si Bethesda décide d'offrir des clés Steam ou bien les jeux même en version boîte pour que les YouTubers puissent les tester, bah forcément, ils vont en dire du bien.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que généralement, les YouTubers, ils signent un papier où ils disent qu'ils n'ont pas le droit de donner leur avis. Pour donner un exemple, Dr. Shokapik, donc ex du Game Cult, des fois ça arrive qu'il reçoive des jeux et il dit très clairement, j'ai signé un papier, je peux pas donner mon avis sur le jeu avant la sortie.
Et ça c'est bien que lui il le précise, mais si tu veux que l'éditeur te voit bien et que t'es toujours dans les bonnes grâces, bah tu dis du bien de son jeu et après il te renverra le jeu suivant. Et moi j'ai pas envie qu'il se retrouve avec des vidéos qui pullent sur internet son vrai avis quoi.
Pour le mot de la fin, ben ne précommandez pas les jeux. Alors, je sais que quand je dis ça, j'ai l'air de justifier la politique des éditeurs, mais c'est pas du tout ça en fait. Je dis juste que c'est le seul moyen qu'il y a actuellement de se faire entendre. C'est-à-dire que si vous voulez que les choses changent, il faut attendre les reviews. Il faut attendre que des gens aient dit à un moment donné ok, c'est bon, le jeu tourne proprement. Je vous demande même pas, si vous voulez, de vous fier à l'avis d'un testeur sur le fond du jeu. Parce que moi, je sais que ça m'arrive, y a plein de jeux où je suis pas du tout d'accord avec certains testeurs. Et de toute façon, moi, ça fait des années que je n'achète plus des jeux, en fait, en fonction de l'avis des autres, entre guillemets. Bon, sauf si je vois sur Steam qu'il y a un jeu qui a 50%. Là, si tu veux, comme Steam, généralement, c'est l'école des fans, un peu au niveau de la note, t'as une alerte qui se met à sonner, quoi, tu vois. Mais attendez au moins les retours des testeurs pour savoir si sur la partie technique, le truc tourne à peu près correctement, quoi. Qu'on se fout pas votre gueule, quoi. Ou alors, si vous voulez commander parce que... Non, parce que c'est vrai que des fois, si tu veux, au niveau des prix, tu vas avoir des choses intéressantes en précommande. Mais à ce moment-là, là, je parle pour les joueurs PC, hein, les joueurs console, démerdez-vous. Jouez à votre jeu moins d'une heure, et si vous constatez des soucis, faites-le rembourser direct, quoi. Tu vois ?
Ouais.
Donc, s'il vous plaît, les gens, je sais que le menu de Steam, il est un peu compliqué. L'option, elle est bien cachée. Hein. Faut aller la chercher et tout. C'est vrai que l'option, elle est bien cachée, mais faites-vous rembourser.
En
quoi.
Même temps, ils vont pas mettre des néons pour s'il se faire... Faites-vous rembourser vos jeux ici, cliquez là.
Non, mais je pense que les joueurs de No Man's Sky peuvent t'expliquer où aller l'option. C'est
bon, messieurs, je vous propose que nous passions à la suite. Et nous allons terminer cette semaine de news. Et oui, déjà, mais accrochez-vous parce qu'à mon avis, Mass Effect... On va y passer un certain temps. Le temps attendu Mass Effect Andromeda est arrivé, n'est-ce pas? Je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue avec Mamie Lamy où je disais « Ouais, mais tu te rends compte, Mass Effect, ils en ont toujours pas parlé. Je commence à trouver ça inquiétant et tout. » Et Mamie Lamy qui disait « Non, mais attendez les gars, il y a le 7 novembre. » Et, oui. Et il avait raison, il y a eu le 7 novembre. Et donc, on a eu droit à un trailer et... plusieurs infos, mon cher Mandrani.
Ouais. Alors, un trailer qui était pas foufou, hein. On est d'accord avec ATH pour le dire. C'était pas dingue, mais les informations qui sont venues un petit peu au compte-goutte après, elles l'étaient un petit peu plus. Sachant que le nouveau numéro de Game Informer est consacré à Mass Effect Andromeda, donc il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Je vais commencer d'abord, bien sûr, par le scénario, hein, parce que c'est quand même une partie importante de la trilogie Mass Effect et donc de ce nouvel épisode qui pourrait lancer autre chose qu'une trilogie, a priori. Donc on va se centrer sur le programme de l'initiative Andromeda, qui a été lancé entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3 au niveau de la timeline. L'objectif, en fait, c'est de construire 4 arches, qui sont en fait des espèces de colonies spatiales, une pour chaque race consilienne. L'objectif est d'établir en fait une route d'accès viable entre la Voie lactée et la galaxie Andromède. Donc la Voie lactée, c'est la galaxie que vous avez déjà explorée dans Mass Effect 1, 2 et 3, et Andromède, c'est une nouvelle galaxie qui n'a pas encore été colonisée par le Conseil. Pour cela, on va jouer un personnage principal, donc comme d'habitude, vous aurez le choix entre un personnage féminin et un personnage masculin. Ces deux personnages-là s'appellent soit Sarah Ryder, soit Scott Ryder, donc une fille ou un garçon, qui ont la particularité d'être la fille ou le fils du pionnier. Le pionnier, en fait, c'est le dirigeant de l'arche humaine. Et donc le scénario va pas mal s'intéresser à la relation fraternelle entre le fils et la fille Ryder, parce que si vous choisissez d'être le garçon ou d'être la fille, en fait, le personnage que vous avez pas choisi, il va quand même exister dans le jeu.
Mais il sera pas jouable.
Non, il sera pas jouable. Mais, a priori, la quête fraternelle est un des enjeux importants du jeu. Donc on va le ou la revoir plusieurs fois dans le jeu.
C'est à la maison, le jeu.
D'ailleurs, là où la trilogie Mass Effect était plutôt basée sur un personnage très en puissance, très expérimenté. Là, Mass Effect Andromeda va vous mettre dans les mains, en fait, un soldat plutôt inexpérimenté qui accède à un rôle très très important au niveau de l'Arche. Et évidemment, dans le même temps, l'Arche humaine, qui s'appelle Hyperion, va perdre le contact avec les autres Arches. Donc ça va évidemment causer des problèmes. C'est à peu près tout ce que je pouvais dire au niveau du scénario. Sachez également que le nouvel ennemi a déjà un nom. Il s'appelle les Quêtes et non pas les Guettes, comme les trois épisodes précédents. Et pour l'instant, on sait rien d'autre que leur nom.
Et donc aussi, tu t'as dit que ça se passait entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Mais le jeu...
Le lancement du programme a été entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Mais a priori, ils ont dormi pendant des centaines d'années.
Hein. Ouais, 600 ans, en fait.
Donc, ne rêvez pas à des crossovers et à voir la tronche de du commandant Shepard dans le jeu.
Ouais.
Oh, tu sais, depuis Stargate, je me méfie.
Ouais,
hein,
c'est pas faux.
Par contre, ce qui serait cool, ça serait que... Bah, vu que la fin de Mass Effect 3 était quand même de la grosse merde, ça serait bien de voir s'il y a des répercussions.
Mais justement, a priori, ils ont un peu tenu compte, dans le mauvais sens à mon sens, du tollé, en fait, Mass Effect 3. C'est-à-dire qu'en fait, on a appris que les missions de loyauté, vous savez, les missions de loyauté avec les différents compagnons que vous avez dans l'aventure, donc vous faites des missions qui leur sont dédiées, entre guillemets, là où elles influençaient pas mal le scénario du jeu dans Mass Effect 2, Mass Effect 3, bah, ça sera plus le cas dans Mass Effect Andromeda. Donc tu sens quand même qu'ils ont plus envie de faire des promesses de scénario complètement changés par certaines missions. Donc voilà, c'est à mon avis, faut peut-être pas trop compter là-dessus. Tant que je suis d'ailleurs dans le scénario, un des gros trucs importants de Mass Effect, c'est les répliques que vous pouvez choisir. Là, en fait, a priori, il y aura 4 choix dans les répliques, mais qui te classifient pas dans le choix bleu ou dans le choix rouge. Ce qui pouvait d'ailleurs être, générer des questionnements dans Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3, où tu te disais, ouais, mais j'ai pas exactement répondu comme ça. Enfin, dans ma tête, c'était pas comme ça que je voyais la réplique. Donc peut-être que ça changera un petit peu de ce niveau-là. Alors du coup, mettons le scénario de côté, parlons un peu plus des mécaniques de jeu. Il y aura le retour du véhicule d'exploration, le fameux Mako que tout le monde a détesté dans Mass Effect 1. Ce véhicule s'appelle le Nomade, et donc il est voulu comme rapide et agile, et donc il doit pouvoir avancer facilement sur n'importe quelle surface. Alors, à noter qu'il est impossible de combattre avec, puisque c'est un véhicule d'exploration. L'objectif, c'est de scanner un petit peu partout les éléments d'une planète afin d'apprendre de nouvelles recettes de confection, d'établir des points de ravitaillement et de voyage rapide. À savoir également que chaque planète aura au moins une base ennemie et que c'est ce qui permet de pas avoir que juste du scan à faire dans chaque exploration.
Non mais j'ai rigolé par rapport à ça parce que il y aura une base ennemie mais j'imagine que ça sera à chaque fois la même en fait parce que ce qui était le cas
possible. Ouais.
À chaque fois genre c'était des planètes qui étaient dans des systèmes différents mais c'était toujours les mêmes bases avec les mêmes gus qui attendaient à ce moment-là enfin. J'espère qu'il y aura plus de diversité.
Génération procédurale, les mecs. Ouais. T'auras aucun level design, mais ce sera très chiant.
Alors,
c'est pas grave.
On nous promet d'ailleurs que dans certaines bases, les ennemis seront parfois trop forts à la première rencontre. Donc, il faudra pas forcément trop insister. Au niveau du vaisseau spatial, parce que c'est forcément une caractéristique des Mass Effect, le nouveau vaisseau s'appelle le Tempest, et on nous promet qu'on pourra naviguer sans temps de chargement à l'intérieur du vaisseau, que la navigation dans la map sera plus fluide, et que entre la sélection d'une planète et l'atterrissage sur cette planète, il n'y aura pas de temps de chargement non plus. En tout cas, c'est ce qui est voulu. On verra s'il faudra gueuler ou
mais du coup,
aux fausses promesses plus tard.
Du coup, c'est dire que le vaisseau, on pourra le piloter nous-mêmes, alors?
Non, non, tu choisis sur la map galactique, tu cliques sur ta planète et ensuite il atterrit tout seul. Hein. Tu ne pilotes pas
comme avant. Parce qu'en fait ils disent qu'il n'y aura pas de temps de chargement, mais il y aura une cinématique déguisée, quoi.
Bah oui, enfin c'est logique.
Ouais, mais donc c'est un temps de chargement en fait. C'est juste qu'il n'y aura pas écrit chargement, quoi.
Bon alors j'espère que ça sera un peu mieux camouflé que tu sais les ascenseurs. mais bon, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il faut parler du système de combat aussi. Puisque le système de combat était pensé pour que le joueur n'ait pas à mettre le jeu en pause. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des raccourcis
Youpi
sur les pouvoirs. Et que, bien sûr, une des nouveautés du jeu, c'est le jetpack. Et donc il va être utilisé pour changer un petit peu la mobilité du personnage.
Alors je précise pourquoi je soupire, parce que j'en ai plein le cul du système de TPS de Mass Effect. Donc voilà.
Ouais.
J'espérais qu'on ait un truc un peu plus complexe, ou mais je sais, je suis très naïf. Hein.
Ouais. Ouais. Donc a priori, ça sera pas pour toi.
C'est encore plus du TPS qu'avant, donc ça me saoule un peu. Mais bon.
Oui, ça sera du... à mon avis, vu enfin la direction qu'a pris la trilogie. Le premier, c'était quand même un RPG, et le 2 et le 3, c'était vraiment des TPS saupoudrés du RPG. Mais par exemple, les caractéristiques RPG qu'il y avait dans Mass Effect 2, Mass Effect 3, c'était des trucs que tu pouvais aussi retrouver dans un Batman Arkham, tu vois.
Bah, disons qu'en tout cas, t'as pas ce qui m'attire dans les RPG, à savoir la notion de planification, de montée de niveau, tu vois, où tu vas fouiller, par exemple, l'arbre des compétences ou peu importe, où tu vas essayer de réfléchir. Ah, ok. Comment je vais construire mon perso, tu vois, en fonction de ce que je vois, sur ce que je peux faire potentiellement en termes de progression, etc. Bref, tout ce qui m'intéresse dans un RPG, ça n'y est pas là-dedans. C'est simplifié à l'extrême et c'est focalisé sur l'action, quoi, donc bon.
Alors justement, au niveau de la planification et des classes de personnages, parce que je rappelle que dans Mass Effect, il y avait trois classes, soldat, ingénieur, biotique, qui étaient chacune séparées, c'est-à-dire que tu choisissais la classe soldat, bah tu n'avais pas accès aux capacités ingénieur. Bah, dans Mass Effect Andromeda, justement, les classes ne seront plus séparées, donc il y aura un accès global à toutes les capacités de toutes les classes, et ça sera à toi ensuite de gérer la progression de ton personnage en fonction de son expérience.
C'est intéressant ça par contre, ouais. Parce que je préfère ça, si tu veux, par exemple, à un The Witcher 3 où on te force à rester dans un arbre de compétences bien précis, où du coup, tu peux pas mixer le personnage comme t'en as envie, quoi, en fait.
Ouais. Et dernière chose, rappelons simplement que dans Mass Effect Andromeda, il y aura le retour du multi, dont d'ailleurs les inscriptions à la bêta sont déjà ouvertes. Enfin bref, moi, je personnellement, c'est pas du tout un truc qui m'attire, donc j'ai pas spécialement lu cette partie de...
Moi, j'ai beaucoup aimé, mais bon, tu sais, c'est le petit plus qui fait plaisir, quoi, mais c'est pas pour
oui,
ça qu'il joue, quoi, en vrai.
Ouais, après, voilà, donc du coup, s'il est bien fait, tant mieux, quoi, pour ceux qui aiment bien. Enfin, moi, c'est sûr que je pense pas y jouer. Après, vu que le multi, en fait, il va être développé en même temps, ça prend quand même des ressources de développement du jeu. Au moins, pour présenter ce nouvel univers, j'aurais bien aimé qu'il fasse un gros truc bien solo, bien complet, qu'il prenne le temps, voilà, de bien détailler les choses. Et ce qui est intéressant, par contre, par rapport à Mass Effect Andromeda, c'est qu'ils ont promis apparemment que ce n'était pas censé être pensé comme une trilogie et que le jeu pourrait se tenir en lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait une conclusion à la fin de cet épisode-là. Le joueur a l'impression d'avoir accompli quelque chose, quoi. Et du coup, c'est pas sûr qu'il y ait de suite. Enfin, c'est Electronic Arts derrière, donc mon œil. Nous prenez pas pour des cons, les gars, quand même.
Ça s'appellera peut-être pas Mass Effect Andromeda, mais on m'a mis en aura une.
Oui.
Oui, bah oui.
Je voulais juste rajouter quelque chose concernant le nouveau héros ou bien la nouvelle héroïne du jeu, qui disait comme quoi il était novice, et du coup, ça serait pas comme Shepard qui serait un vétéran, etc. Mais moi, je pense que, en termes de gameplay, ça va rien changer du tout, c'est-à-dire que le mec, par exemple, tu vois, comme dans The Last of Us, où au début, ton personnage, pour viser, tu vois bien que son arme vacille un peu de gauche à droite, là, je pense que c'est juste pour le scénario, quoi, ça sera pas...
Ah oui.
On verra pas que le mec, c'est un noob, quoi.
Non, je pense que c'est plutôt au niveau de la charge parce que ça paraît quand même bizarre qu'un soldat qui a été envoyé justement dans une mission aussi importante que le projet Andromeda soit pas un tant soit peu maîtrise un tant soit
compétent.
Peu les bases, quoi. Donc on va juste terminer en rappelant que Mass Effect Andromeda n'a toujours pas de date de sortie précise, hein, c'est toujours prévu pour le printemps 2017. C'est toujours édité par Electronic Arts et développé par BioWare, et ça sortira sur PS4, Xbox One et PC, et on sait pas s'il y aura du retard entre la sortie PC et la sortie console. Et pour l'instant, on n'a toujours pas, et un grand pont d'Electronic Arts a récemment annoncé qu'il n'était pas impossible qu'il y ait un report du jeu si le jeu en avait besoin.
Alors moi, juste, il y a un truc qui me gêne dans ce que j'ai vu, et qui m'a saoulé, mais direct... C'est que j'ai l'impression que c'est encore une histoire hollywoodienne du gars qui va sauver le monde, quoi. Et, si tu veux, vu le setting, je m'attendais quand même à un truc plus orienté exploration. Et en plus, il y avait des thèmes, je pense, vachement intéressants à aborder. On parle quand même de gars qui débarquent dans une galaxie et qui viennent s'approprier des ressources, des territoires. Enfin, ça vous rappelle pas des choses de notre monde actuel qui ont créé des conflits, etc. C'est vachement intéressant, quoi. Et plutôt que de repartir encore dans une histoire où t'as l'impression qu'on va avoir The Big Méchant... alors cette fois, c'est pas les moissonneurs, tu vois, c'est autre chose. Et ouais, je suis un peu... je trouve ça... Je trouve que le potentiel est sous-exploité, en fait. C'est ça que je trouve dommage.
Après, il faudra voir le jeu, parce qu'enfin là il nous présente la nouvelle race ennemie. Ça dépend en fait comment c'est abordé par BioWare. Moi, ce que j'ai toujours rêvé, par exemple, dans Mass Effect, ce serait de faire la guerre du premier contact. C'est-à-dire la première fois où les humains ont affronté les Turiens. Parce qu'à chaque fois dans le jeu, on nous en parle. Et je me suis dit que ça devait être quand même super intéressant de vivre ce premier contact. Je pense qu'on va vivre ce premier contact avec la nouvelle race extraterrestre ennemie. Et ça serait bien que ça soit géré d'une façon pas bête et méchant. Genre, vous êtes des méchants, enfin, vous êtes des extraterrestres pour nous, on va vous tuer.
Je suis le méchant, je veux tuer la gentille.
Voilà.
Nous, on est gentils, hein, parce que, évidemment, hein, on n'est pas du tout des gars qui débarquent, qui occupons des territoires qui sont pas à nous, et qui collectons des ressources qui nous appartiennent pas, tu vois. C'est,
voilà, c'est un peu l'histoire de l'Amérique, quoi.
Voilà.
Et donc, du coup, ça se trouve que les extraterrestres, les pauvres, c'est les petits indiens qu'on vient faire chier.
Mais ouais, tu vois, mais par exemple, rejouer la colonisation en Amérique, mais dans l'espace, avec un truc beaucoup plus nuancé que, ok, nous on est les gentils, eux c'est les méchants, et on va les niquer. America fuck yeah, quoi.
C'est ça, mais je pense qu'on va jouer ça, malheureusement.
Voilà, c'était juste mon objection. Donc, Mordren, Ben, Pixel, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez, est-ce que vous avez des attentes ou...
Pas du tout.
J'en ai rien à foutre.
Vous en battez les couilles, en fait, de Mass Effect, c'est ça, hein?
Moi, à peu près, ouais. C'est
ah bon?
À peu près l'idée. Ouais, ouais, je... C'est peut-être...
T'as pas fait les anciens sur...
J'ai fait le premier, j'ai commencé le 2, je me suis fait chier, j'ai arrêté, j'ai pas fait le 3.
Voilà. Donc, au moins, c'est bien, t'es cohérent, tu vois.
Bah, moi, c'était le côté RPG. Après, l'univers, je le trouve très sympa. Mais après, le gameplay, pas plus que ça. Alors, je pense que je m'y serais amusé.
Trop de jeux à faire.
Oui, déjà, voilà. Après, il faut faire des choix aussi. Mais comme tu disais, aujourd'hui, la composante RPG qu'il y a dans Mass Effect, tu les retrouves dans tous les jeux qui sortent
c'est maintenant.
T'as des quelques capacités, tu peux faire évoluer. Enfin, ça va pas plus loin que ça. Donc, voilà. Moi, je me suis arrêté là. Et comme je pense pas qu'il soit dans l'optique de changer ça, pour l'instant, j'en attends rien.
Voilà. Morgan, toi aussi
Moi, j'ai bien envie qu'on monte le jeu, en fait, parce qu'à l'heure actuelle, on a vu que des cinématiques du jeu. Enfin, en tout cas, c'est tellement mis en scène que, pour l'instant, enfin, si, il y a un tout petit moment où on voit effectivement le joueur en train de se battre avec un énorme ver géant. Ok, mais moi, j'aimerais bien avoir une idée de ce à quoi ressemble le jeu.
Ouais, du gameplay, quoi.
Voilà, du vrai gameplay, quoi. Et pour l'instant, c'est vrai que ça manque un peu. Alors bon, le scénario, c'est bien, tout ça, mais effectivement, j'ai les mêmes réserves que vous à ce propos. Moi, je suis pas comme Ben, j'adore l'univers. Enfin, j'ai fait les trois, et du coup, c'est vrai que j'attends forcément Mass Effect Andromeda.
Et t'as pleuré. Après, aussi à la fin du 3, quand même. Comme nous.
Je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas pleuré, mais ça faisait un drôle d'effet, quand même, le final.
Ouais.
Mais du coup, ouais, j'ai hâte de voir ce que va donner Mass Effect Andromeda. Après, j'ai trop appris, en fait, à supprimer ma hype, en fait. Ouais. Du coup, en fait, si tu veux, je refuse la hype autour de ce jeu. Et pour l'instant, il y a trop d'inconnus pour que j'ai véritablement envie d'être à fond dedans, quoi. Donc, j'espère que ça sera un grand jeu. Mais pour l'instant, je me calme.
Mais moi, en fait, ce qui m'a plus plu dans Mass Effect, en fait, c'est ce que vous avez dit, c'est l'univers, en fait, du jeu. C'est pour ça que j'ai continué à jouer à Mass Effect 2, Mass Effect 3, parce que j'avais vraiment l'impression que, Shepard, c'était moi, et que je découvrais avec lui, des nouvelles choses. Je sais très bien qu'on va retrouver un TPS classique vis-à-vis des mécaniques de gameplay. C'est pas au niveau du gameplay que j'attends. Moi, c'est plus, voilà, tout ce qui touche aux nouvelles créatures qu'on va rencontrer, les races, et voir comment la civilisation galactique a évolué aussi après 600 ans d'absence, quoi.
Ouais. Morwan.
En fait, Mass Effect, c'est quand même un jeu qui compte. Enfin, en tout cas, la trilogie, pour moi, c'est un jeu qui compte parce que c'est arrivé un peu un moment où j'étais en orphelin de Space Opera, en fait. Tu sais, avec la fin de Star Wars, la prélogie, machin, il y avait un espèce de souffle un peu épique dans cette trilogie-là. Et je me rappelle de l'introduction, je sais plus si c'était Mass Effect 2 ou Mass Effect 3, mais je me dis, mais putain, mais en fait, c'est le nouveau Star Wars, ce truc. Et je me demande, en fait, si maintenant qu'on a de nouveau du Star Wars, si Mass Effect Andromeda, c'est pas un peu suranné, en fait. Et du coup, j'attends qu'ils me remettent un petit peu dans ce bain-là et que j'ai plaisir à redécouvrir, en fait, cet univers.
Et je voulais juste finir sur le fait que le héros du trailer, il a vraiment une gueule à chier, quoi. Et j'espère que le moteur de création de personnages sera un peu mieux foutu que dans les anciens, parce que mon personnage, si je vous montrais le premier personnage, le premier Shepard que j'ai fait, il avait quand même une gueule assez horrible. Et on se serait demandé même si c'était pas lui l'extraterrestre, quoi.
Bah, il faut avouer que le moteur de création de personnage, alors il y avait moyen de faire des trucs super bien avec, mais il fallait passer un temps fou, quoi. Je me rappelle, moi, la création d'un perso, c'était minimum 3 heures sur Mass Effect.
Ah ouais, quand même. Donc
parce que tu sais, je réglais le visage poil de cul près, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, si tu veux, c'est que des fois, tu faisais un truc, ça avait l'air bien comme ça. Mais en fait, quand il commençait à parler, tu te rendais compte que c'était pas terrible.
Ouais,
en fait.
Une fois que tu le voyais en jeu.
À cause des expressions, tu vois. À cause des pommettes, etc. C'était, il fallait vraiment tout régler au poil de cul près. Donc, j'espère que cette fois, ce sera un peu moins compliqué, quoi, quand même. Mais par contre, il faut reconnaître une chose, c'est qu'en termes de possibilités, tu pouvais faire vachement de trucs avec.
Ouais, mais bon, enfin, je tiens quand même à féliciter BioWare d'avoir fait une création de personnage plus moisi que Dark Souls, quoi.
Oh, t'exagères.
Non, un petit peu. Non, mais franchement.
Franchement, pour avoir saigné les deux en termes de moteur de création de personnage, Mass Effect, j'arrivais à faire quelque chose avec. Dark Souls, pour arriver à faire un personnage qui soit pas de la merde, et Dieu sait que j'ai essayé, c'est compliqué.
Bah, moi, c'est plutôt le contraire, donc du coup, tu vois, les goûts de chacun, quoi.
Bon, voilà. Allez, c'est terminé pour Mass Effect cette semaine. Bon, Pixel.
Oui.
Tu peux sortir de ta torpeur.
De ma torpeur.
Et on va pouvoir te demander pourquoi, Pixel, pourquoi as-tu craqué pour une PS4 Pro? Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade?
Non, je suis pas malade.
Tu as la fièvre?
Je suis pas malade. Pour répondre à pourquoi, c'est simple, c'est rapide, parce qu'il y a un an, j'avais une PS4 classique. J'avais fini mes jeux. À l'époque, il y avait aucun jeu sur PS4 qui me convenait, et ce qui sortait à l'avenir ne me convenait pas non plus, et puis elle faisait un bruit d'avion en réaction. Donc je l'ai revendu. J'ai gardé les jeux, puis là, cette année, je voulais absolument m'acheter une PS4. J'avais le choix entre une Slim 1 Tera 400 boules ou une Pro 1 Tera à 400 boules. Donc j'ai pris la Pro.
Ah bon ? Une Slim 1 Tera, elle est à 400 boules ?
Non, ça a baissé de prix, elle est à 350 maintenant. Vu que la Pro est sortie.
Pour 50€, en fait, t'as préféré prendre la version Pro. Ouais. La version... Bah oui, mais c'est logique.
Mais ouais, il y a quelques semaines encore, la Slim 1 Tera, elle était à 400.
Ah bon ?
Enfin, 399. Mais maintenant que la Pro, elle est sortie, ils sont obligés de baisser le prix, quoi.
Et puis, tu t'es dit aussi, j'imagine, que peut-être que ça fera moins de bruit, donc autant ne pas reprendre une patte,
quoi. Peut-être que ça fera moins de bruit, et puis, de toute façon, elle est future-proof. Le jour où je m'achèterai un écran 4K, ma console, elle sera prête. Pour l'instant, là, j'ai qu'une vieille télé Sony 1080p. La 4K, un jour, quand on aura des écrans 4K HDR de qualité à moins de 1000€ en France, je commencerai à me pencher sur le sujet.
Ouais, à mon avis, tu vas te patienter un peu encore.
Ouais, je crois que il y en a encore pour au moins une année minimum pour que les prix y fondent. On verra bien. Mais ouais, donc il me fallait une PS4, donc j'ai racheté la PS4 Pro Day One. Esthétiquement parlant, elle est aussi grosse qu'une PS4 classique.
En fait, elle est un peu plus grande et plus lourde aussi, un peu. C'est quasiment pareil, quoi. Si vous avez une PS4 qui vous la rangez dans votre meuble, si vous mettez une PS4 Pro, elle va rentrer aussi. Il n'y a pas une grande différence, quoi.
Voilà. Et bon, la PS4 Pro en elle-même, techniquement parlant, elle a le même processeur que la PS4 classique, sauf qu'il est plus rapide. Voilà. Donc c'est à peu près les seules choses qu'on a en plus. Avec un disque dur de 1 teraoctet qui fait pas 1 teraoctet mais qui fait 800 gigas et des poussières.
Comme d'hab.
Mais à part ça, via les patchs spécifiques pour certains jeux, elle offre des graphismes plus beaux ou un framerate plus élevé. Là, j'ai 3 jeux, j'ai Bloodborne, j'ai Infamous Second Son et The Last of Us Remaster. Alors pour Bloodborne, il n'y a pas de patch PS4 Pro, je tiens à le dire tout de suite.
Ce qui est quand même paradoxal pour un jeu qui a été quand même en partie financé par Sony, mais je ne dis ça, je ne dis rien, voilà.
Sans quoi, pour les deux autres jeux, oui, il y a des patchs PS4 Pro, donc il faut les télécharger. Ça t'offre des options supplémentaires, donc pour Infamous, dans les options, tu as une ligne d'options supplémentaires qui te permet de choisir entre un nombre d'images par seconde plus élevé ou une meilleure résolution. Alors quand tu mets le nombre d'images plus élevé, oui, tu as les 60 FPS,
mais pas constamment. Dès que t'arrives à Seattle, là tu commences à avoir des baisses de framerate. Dès qu'il commence à y avoir pas mal d'action, tu as des baisses de framerate aussi, quoi. Tu tombes à environ 50 FPS. C'est visible, tu la vois, la baisse de framerate, et tu la sens, malheureusement. Sans quoi l'autre option pour afficher une meilleure résolution, j'ai pas compris en fait la différence. J'ai fait avec et sans, et je vois pas de différence à l'écran.
C'est à cause de la résolution de ta télé en fait. Enfin, c'est juste que il faudra vraiment que t'aies une télé qui coûte un bras quoi pour voir la différence.
Voilà, donc pour moi j'ai pas vu de différence. Et pour The Last of Us Remaster, t'as aussi une option pour voir avoir plus de FPS. Alors sur la PS4 classique, tu pouvais déjà jouer en 1080p 60 FPS. Là, j'ai vu, parce que pour Infamous, j'ai refait le jeu entièrement. Donc là, je peux dire qu'il y a vraiment des baisses de framerate. Là, pour The Last of Us, j'ai joué que une heure environ. Mais sur l'heure que j'ai joué, bon, c'était en intérieur. Et tu sais, du 60 FPS constant.
Ouais, mais c'était déjà le cas sur le PS4 classique. Même pour Infamous, c'est déjà du 60 FPS pour les deux jeux. Donc ça, en fait, finalement, la PS4 Pro change pas grand chose, quoi, par rapport
à ce jeu. Sauf que pour la PS4 classique, sur The Last of Us, t'avais quand même des baisses de framerate. Enfin, moi, je les ai vues, hein. J'ai retourné le jeu dans tous les sens. Il y avait quand même des baisses de framerate, en tout cas, surtout en extérieur. Bon, après, il va falloir que je refasse le jeu pour voir si vraiment c'est du vrai 60 FPS constant, ou si, comme sur la PS4 classique, il y a des baisses de framerate, faudra voir. Pour l'instant, il y a une trentaine de jeux qui sont compatibles PS4 Pro via téléchargement d'un patch. Sony a annoncé qu'il y en aurait plus de 40 d'ici la fin de l'année. Sony ne force pas les éditeurs tiers à sortir des patchs pour leurs jeux. Par contre, ceux qui veulent le faire, Sony tant plus à leur dire de concentrer leur patch plus sur le framerate que sur la beauté du jeu en lui-même, quoi. Donc
pas plus mal, hein.
C'est pas plus mal. Et c'est surtout une mise à l'échelle en 1080p, voire en 4K pour les jeux qui tournaient en 900p, quoi. Pour l'instant, je vais continuer. En fait, pour le bruit, le fameux bruit de la PS4 Pro.
C'était la question que j'avais posée.
Voilà. Moi, je me souviens de la PS4 classique que j'ai acheté il y a un an. Que j'avais acheté d'occasion d'ailleurs, et elle montait très vite dans les tours, surtout sur Bloodborne, et j'avais un méchant bruit aigu qui était permanent, surtout dès que ça montait dans les tours, j'entendais un bruit aigu qui me cassait les oreilles, la console faisait beaucoup de bruit, et donc j'entendais ce bruit tout le temps, je n'en pouvais plus. J'ai refait Infamous Second Son du début jusqu'à la fin, généralement le soir, voire même la nuit, dans une petite pièce, avec le son de la télé très très bas. Quand tu joues normalement à Infamous, quand tu fais de l'exploration, tu entends presque pas la console. Mais quand je dis presque pas, c'est vraiment presque pas. C'est vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Quand ton ventilateur, il est en mode idle, donc c'est-à-dire en consommation, on va dire, en normal, on va dire, quoi. La console fait quand même du bruit. Mais c'est très faible. Ça, c'est vraiment bien. Par contre, dès qu'il commence à y avoir beaucoup de monde à l'écran, beaucoup d'ennemis et de la baston, tu entends le ventilo, il commence à tourner. Il commence à monter très vite dans les tours. La console fait plus de bruit. Il y a plus de souffle. Tu entends le bruit du souffle, en fait. Mais il n'y a pas ce fameux bruit aigu qu'il y avait sur la PS4. En tout cas, qu'il y avait sur ma PS4 classique.
Ouais. Parce que c'est peut-être ta PS4 que tu avais qui était...
peut-être défectueuse, je ne sais pas.
Ouais, parce que moi, mais... sur la PS4 classique, le bruit que tu me cites, je l'ai entendu que sur Uncharted 4, quoi. Et peut-être d'autres jeux, mais enfin, je me rappelle que des fois, ouais, ça m'avait cassé les couilles à ce moment-là. Mais sinon, on va dire 90% du temps, ma PS4 était plutôt silencieuse. Enfin, si je mettais le son à la télé, j'entendais plus. Mais par contre, ce qui me fait assez peur, c'est que tu me dis que même sur la PS4 Pro, apparemment, des jeux comme Infamous et tout ça, alors que c'est des jeux qui sont sortis sur la PS4 classique, font quand même un peu de bruit, ça me fait un petit peu peur.
Enfin, je me répète, mais je jouais la nuit dans un calme presque absolu, dans une petite pièce. À aucun moment j'ai été gêné par le bruit de la console. Et je jouais à 1 mètre, 1,50 mètre de la console. Jamais j'ai eu les oreilles qui saignaient. Jamais. Il y a toujours du bruit, mais il est... Pour moi, selon mon expérience personnelle, ce bruit de la PS4 Pro n'est pas dérangeant.
Morin, tu as une question ?
Non, j'ai surtout un truc à rajouter sur le bruit, notamment le... En fait, il y a eu un test assez intéressant qui a été fait sur Gamekult et les numériques, avec des outils très spécifiques et tout. Donc ils ont mesuré la consommation, le bruit et la chaleur dégagée par la PS4 Pro par rapport à la PS4, pas la PS4 Slim, mais l'ancienne PS4, par rapport à la Xbox One, l'ancienne, et la Xbox One S. Et on se rend compte effectivement qu'au niveau du bruit entre la PS4 Pro et la PS4 normale, il n'y a pas vraiment de différentiel. Enfin, en tout cas, c'est assez minime quand tu joues à partir de 50 cm de l'écran. Et par contre, là où il y a pas mal de changements, c'est au niveau de la consommation qui est assez énorme.
Ouais,
et
ça
au niveau de...
pas mal quand même.
Et au niveau de la chaleur aussi.
La PS4 Pro dégage plus de chaleur que...
Ouais. J'ai mis ma main derrière, c'est... Ouais, putain, elle charcute là, pas mal là au niveau de la chaleur.
Il préconisait d'ailleurs de la placer en dehors d'un meuble télé et plutôt à la verticale pour une aération plus correcte.
Je vous mettrai le lien au passage vers le test.
Ouais, j'ai lu ce test aussi, c'est vrai que la PS4 Pro dégage énormément de chaleur, plus que la classique. Elle est à l'air libre, mais elle est à l'horizontale, pas à la verticale. Donc faudra que je teste aussi à la verticale pour voir si...
tu coupes le chauffage et tu vois si ça chauffe bien la pièce.
Ah oui, par contre, ça, je me souviens de la Xbox 360, j'ai joué pendant l'été, c'était une horreur, quoi.
Ouais.
Enfin, la première Xbox 360, hein, pas la Slim, parce que tout ça, parce que la Slim et tout... Enfin, quand j'ai changé ma Xbox 360 avec une Slim, par contre, tu vois, là, j'ai vu toute la différence. Et du coup, entre la PS4 et la PS4 Pro, j'ai pas l'impression qu'il y a cette différence-là en termes de sonorité. Enfin, si je m'en réfère avec ce qui a été calculé par les numériques, avec donc un outil pour mesurer les décibels, comme tu as dit, Mordane, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux.
Oui, mais dans ce cas-là, le bruit, alors qu'ils ont entendu dans le test, il pourrait être logique, parce que moi, je joue en 1080p, donc moins de ressources de la part de la console, donc moins de bruit. S'ils ont fait tous les tests en 4K, oui. Alors là, la console, elle risque de hurler, ouais.
Effectivement. Bon, je pense qu'en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, si ça vous dérange pas de prendre une FAT, ben écoutez, prenez une FAT, hein, ça coûtera bien moins cher. Surtout que moi, je sais que en ce moment, il y a des gens qui essaient de s'en débarrasser.
Oui.
Donc, moi, j'ai mon beau-frère, il a chopé une PS4 à 180€, plus 3 jeux.
Donc ouais, il y a énormément d'offres, même en neuf, hein, en ce moment, qui sont assez fat, hein, genre t'as, même sur les slims en plus, hein, où t'as genre 250€ avec déjà deux jeux, enfin c'est un truc de ouf.
Pour la PS4 Slim, elle est à 250€?
Alors, sur certaines offres, dans certains magasins, tu peux trouver des trucs assez,
ouais,
vraiment
faut
pas
aller les chercher, quoi.
Faut vraiment chercher, ouais.
Mais après, est-ce que pour les jeux à venir, ça va être bon ou pas? Parce que, j'ai peur que la PS4, si ça continue comme ça, en fait, après, tu vois, on ait des mêmes problèmes que sur la 3DS. On a bien vu qu'il y avait des jeux, par exemple Monster Hunter 4, où le jeu sur la New 3DS est fluide, et sur la 3DS classique, il rame comme pas possible, quoi.
Moi, j'avoue que c'est ma grosse crainte, ou même Hyrule Warriors, qui était optimisé à la pisse sur l'ancienne 3DS. Et j'espère vraiment qu'on se retrouve pas dans des situations comme ça.
Ah ouais, là, ça serait catastrophique, quoi.
Et j'espère que ça va pas, comment dire, le fait d'acheter une PS4 Pro, ça va pas envoyer un signal à Sony, mais au reste aussi de l'industrie, pour dire, ok, nous les joueurs, maintenant, on est ok pour avoir une console de demi-génération tous les 2 ans et demi, 3 ans, quoi.
Et encore 2 ans et demi, 3 ans, à mon avis, tu es optimiste, Pixel.
Oui, si les ventes sont bonnes, de toute façon, ça enverra forcément un message.
Ça enverra forcément un message. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, voilà, si j'ai acheté la PS4 Pro, c'est parce que j'avais plus de PS4. Donc, voilà.
Oui,
si vous avez une PS4 classique, une FAT ou une Slim, la Pro, elle sert à rien, et encore plus si vous avez un écran 1080p.
Et il y a de fortes chances que vous en ayez un en plus.
Voilà. Pour la PS4 Pro, j'ai envie de dire, attendez les futurs patchs pour les jeux, et attendez les futurs jeux qui seront optimisés pour la PS4 Pro, ou les jeux qui seront exclusifs à la PS4 Pro, parce qu'il va y en avoir, ça, certainement.
Mais non, non.
Mais si, il va y en avoir, t'inquiète.
Mais non, mais non, si. Sony a dit que...
Si, si, c'était... ATH, tu vas te faire carotte, assume.
Mais je vais rien faire carotte du tout, c'est eux qui auront pour mon argent, je vais rien à foutre. C'est pas moi qui me fais carotte dans l'histoire, c'est eux, hein, je veux dire, s'ils veulent perdre des clients, voilà, quoi. On ira tous chez Microsoft et puis ils iront se faire enculer.
Mais ils feront pareil, Microsoft.
Avec la Scorpio.
Franchement, Microsoft, là, ils essaient tellement de remonter leur image que je pense pas qu'ils feront un truc comme ça, quoi.
Bon, à Nintendo, ils ont été capables de le faire. Et
pourtant, ouais, mais on parle de Nintendo. Tu vois, Microsoft, là, en ce moment, ils essaient de la jouer un peu plus fine, quand même.
Non, mais Nintendo, ils feront n'importe quoi. Leurs fans sont toujours là pour eux. Donc,
Enfin, attention. Nintendo, les mecs, on parle quand même d'une entreprise qui s'est obstinée à vendre une Wii U, qui est la pire console de Nintendo qui s'est pas vendue. Et ils l'ont jamais baissé de prix, quoi. Officiellement. Enfin, je veux dire quoi, c'est même la GameCube, tu vois, au bout d'un moment ils avaient compris que c'était pas possible, ils ont baissé le prix, et hop, elle est passée à 99€ à l'époque. Enfin, ouais. 99€, c'était le jackpot, quoi. Tu prenais une GameCube à ce moment-là, t'avais tout gagné.
Moi, le pire avec Nintendo personnellement, c'est la politique tarifaire sur les jeux, quoi. Mm. Tu dois t'estimer heureux quand ils baissent leur jeu à 30€, quoi.
Et encore, c'est pas au bout d'un an, tu vois, comme dans certains cas. Un gros triple A, au bout de 3 mois, ils commencent déjà à baisser de prix. Les jeux Nintendo, c'est mort. C'est au bout de 3 ans, peut-être ils passeront le prix à 30€, tu vois.
Mais regarde encore les jeux 3DS, ils sont toujours tous à 35 balles. C'est un truc de ouf.
C'est clair.
Mais
les jeux 3DS, ils baissent jamais de prix. C'est impressionnant.
Voilà. Et ça, c'est Nintendo.
Parce que autant, tu vois, je suis contre les soldes permanentes, tu vois. Autant, je pense qu'en échange, il devrait y avoir une politique de écoute, on baisse le prix à un certain niveau quand le jeu il a été rentabilisé.
Les seuls qui sont pas chers, c'est la gamme Nintendo Select où ils sont à 20 balles, quoi, c'est tout.
Le temps qu'il arrive en Nintendo Select
ils sont pas tous en Nintendo Select en plus. Voilà. Hein.
Et d'ailleurs, je sais même pas sur Wii U s'il y a des Nintendo Select ou pas du tout.
En fait, je t'avoue que j'en sais rien du tout.
Je pense pas parce que j'ai jamais vu en magasin un jeu
Il y en a. New Super Mario Bros. U, il est en Nintendo Select. Je vais juste vérifier.
OK, c'est le seul jeu.
Non, il y en a plein d'autres, mais je vais pas te faire la liste.
Il y en a plusieurs, mais bon. Bref, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine en termes de podcast et qu'on continue nos divagations hors champ. Non, parce que là, je vous sens venir, là, vous allez me faire un podcast de 2 heures, il n'en est pas question.
On a terminé, là, c'est bon.
Ouais, on m'a dit ça la semaine dernière et résultat, j'ai passé une nuit blanche à monter le podcast.
tu noteras que c'est pas moi qui t'ai dit ça.
Ouais. Donc, on s'arrête pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
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 Ciao.